Bonjour là-bas, si j'y suis, c'est Marianne de Saint-Maur. Bon, écoutez, je vous remercie pour toutes ces émissions sur la Colombie, parfois difficiles à entendre. Et puis, je tiens à vous remercier particulièrement pour la non-traduction simultanée des personnes qui parlent dans leur langue, bon, notamment l'espagnol en ce moment. Ça nous permet de, enfin, ça me permet parfois de remémorer les mots que j'avais appris du temps de ma scolarité et d'apprécier la musique de la langue. Et surtout, merci beaucoup pour la traduction par votre interprète des chansons qui sont curieusement très gaies à entendre, mais dont les textes sont assez significatifs. Merci beaucoup pour tout ce travail de journalisme et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous et à bientôt. Au revoir.
Et puis il y a les cadeaux aussi. Alors les cadeaux. Bon, des beaux cadeaux achetés dans des beaux magasins avec des beaux papiers cadeaux. Moi, les plus beaux cadeaux que j'ai reçus, c'est de chacun de mes trois enfants. C'est pas au même moment. Ma fille, quand elle était petite, sa mère et moi, nous étions déjà un peu séparés, quoi. Bon, pour la forme, j'avais pris un studio. Et un jour de fête des pères, vous avez plus la force de sortir, quoi. Elle est venue avec sa mère et elle m'a apporté un poisson. Un poisson en plastique. Dans une poche en plastique, remplie d'eau. Avec un petit bocal en plastique. Tout était en plastique, mais là, c'était vraiment magnifique. Elle a eu le souci de mettre ce poisson en plastique dans une poche d'eau pour le transport. Ça, c'est un cadeau magnifique. Mon fils aîné, c'est une carte quand il était gamin, où il avait juste mis « Papa, je t'aime ». Et le cadet, c'est une petite peluche. Comme ça, qu'il avait eu l'idée, un gamin, qui a l'idée d'offrir une petite peluche à son père. C'était vraiment, ça, c'est vraiment les cadeaux auxquels je tiens le plus.
Oui, bonjour, c'est Florence de Strasbourg. Alors, je viens d'apprendre une nouvelle très très triste et j'aimerais en faire part aux auditeurs parce que quelqu'un, un homme d'une très grande valeur vient de s'éteindre. C'est un écrivain qui était très peu médiatisé parce qu'il fuyait la logique des médias, la logique tape à l'œil. Enfin, c'est quelqu'un qui détestait se vendre. Il s'agit de l'écrivain Julien Gracq, l'auteur du Rivage des Sirtes, l'auteur du Château d'Argol, l'auteur de la littérature à l'estomac notamment, enfin, qui s'opposait justement au système des prix, au système de la concurrence, de la marchandisation, de la beauté, de la littérature. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est mort à 97 ans. Et ben, voilà, je demande aux auditeurs d'avoir une petite pensée pour ce grand homme qui continue à vivre à travers ses livres. Voilà.
Bonsoir, j'ai appris qu'on cherchait à vous torpiller de l'intérieur avec d'affreuses poches de publicité. Vous allez devenir un petit peu RTL ou Europe 1 ou toutes ces stations qu'on pourrait qualifier de merde. Et je suis très attaché au service public, alors j'espère que vous allez lutter pour pas devenir une de ces stations et garder la particularité qui fait de France Inter une super station indépendante des pouvoirs politiques actuels, surtout quand on sait toutes les pressions que vous subissez. Donc j'espère que vous allez lutter pour éviter la catastrophe, parce qu'ils sont bien partis pour vous mettre une bonne torpille. Hein. Allez, ciao, c'était Stéphane. Hein. Ciao, bonne soirée. Hein.
Oui, bonjour. J'ai entendu aux infos sur France Musique l'inquiétude de la presse écrite quant au projet de la direction de Radio France d'autoriser la publicité, et pas la publicité générique comme il y a déjà trop actuellement, mais la publicité de marque, sur les stations de son réseau. Alors ce projet, moi, m'apparaît néfaste, et beaucoup d'auditeurs que je connais apprécient Radio France justement parce qu'il n'y a pas de publicité sur ses antennes. Alors j'espère qu'il y a bien des AMG qui écoutent actuellement et qui peuvent envisager des actions contre la mise en place de ce projet. Hein. Je compte sur eux et je les soutiendrai. Voilà. Je suis d'ailleurs un peu surpris de ne pas avoir entendu parler de ce projet sur France Inter. Et je pense que les professionnels qui travaillent à Radio France pourraient manifester leur désaccord, car c'est aussi un signe de leur indépendance de ne pas appliquer ce projet. Voilà, c'était Bernard de Détain en Côte d'Or. Au revoir.
Eh bien oui, il serait question, en effet, d'introduire de la publicité de marque sur les antennes de Radio France.
on n'arrive pas à croire sérieusement que ce projet puisse s'appliquer tant qu'il est contraire aux intérêts évidents de Radio France, à la tradition, à la culture des auditeurs, au fait que les Français à plus de 60% sont hostiles à la publicité, à la radio, etc., etc. Il y a un début de mobilisation, les syndicats notamment de journalistes et les syndicats des personnels de Radio France sont en train de se mobiliser, et bien évidemment les auditeurs ne manqueront pas de on les connaît, on vous connaît assez bien, de se mobiliser contre un projet aussi saugrenu, mais aussi dangereux, à la fois pour France Inter et pour l'ensemble de Radio France. Merci en tout cas pour vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, qui restaient à l'écoute, l'oreille pointée et pointue, malgré la trêve des confiseurs. Et aujourd'hui, c'est des nouvelles diffusions, hein, des missions pendant toute cette période que nous vous proposons. Aujourd'hui, on retourne à Mayotte. À Mayotte, c'est un endroit qu'on aime particulièrement, et c'est une terre française, Mayotte, mais lointaine et dont on ne parle pas beaucoup et certainement pas assez, notamment en ce qui concerne les sans-papiers et les réfugiés comoriens qui viennent nombreux à Mayotte pour essayer de vivre moins mal et qui y sont reçus, comme l'on sait, puisque récemment une embarcation de Kwasa Kwasa, comme on l'appelle, a été, comme vous le savez, retournée, et il y a un certain nombre de victimes, une chose qui est assez fréquente dans ces eaux assez terribles autour de Mayotte. Donc voilà où nous allons aujourd'hui, demain aussi, pendant trois jours, on va retourner à Mayotte. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés. Dans la boîte vocale de la base, si j'y suis tout en guirlandais, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, ici Marie-France. J'appelle de Mantes-la-Jolie pour des SDF qui dorment sous les ponts. J'ai tiré les signaux d'alarme partout, mairie, tout ça, rien n'est fait. Alors, ça serait bien que vous puissiez venir filmer au pont de Limay, en dessous du pont de Limay, la direction les tennis de Mantes-la-Jolie, ASM en jaune, c'est juste à gauche, sous le pilier du pont, les SDF dorment là-dessous. Il y a une femme de 40 ans et un homme de 40 ans qui sont morts cette semaine à Mantes-la-Jolie. Merci Daniel Mermet, je compte sur vous.
Ouais, salut à tous, je viens d'entendre Christian Estrosi dans le journal qui essayait de nous tirer une larme sur le sort d'Ingrid Betancourt. Peut-on passer un Noël dans l'indifférence, dit-il, des sanglots dans la voix, en oubliant tout simplement que lui et sa clique envoient des tas de gens à la misère, que rendre la vie plus précaire et plus difficile pour des dizaines et des centaines de milliers de ses concitoyens, qui vont eux passer Noël dans la plus parfaite indifférence. Mais c'est normal, ils ne s'appellent pas Ingrid Betancourt, ils sont français, ils sont pauvres et on les emmerde. Allez, salut.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Guy Van Gotil. Mayotte, un confetti explosif. Tropical, lagon, parfum de santal, parfum de ylang-ylang, parfum de toutes sortes, parfum de la nuit. Des femmes passent avec ces maquillages étonnants, ces masques étonnants, des sourires, de la grâce, de la gentillesse, On est bien, formidable, on regrette pas du tout les 15 heures d'avion qu'on a fait pour venir jusque-là à Mayotte. À Mayotte et dans les Comores. On est bien, sauf qu'on peut pas oublier ce soir les images qu'on a vues en arrivant, en débarquant ici, en arrivant à Mamoudzou, qui est la capitale de la grande terre de Mayotte. Première image, un panier à salade avec des hommes dedans, encadrés, tenus par des militaires, des gendarmes peut-être, des policiers, c'est pas très bien, avec des gants noirs, des hommes noirs, encadrés par ces militaires blancs, et dans ce panier à salade. Et le panier à salade va prendre le bac pour Dzaoudzi, c'est-à-dire la petite terre, et de là, eh bien, ces hommes iront dans un centre de rétention et seront reconduits chez eux, dans les Comores. C'est la première image que nous avons eue en arrivant à Mayotte. Et c'est la dernière image aussi que nous avons eue en repartant de Mayotte, la reconduite à la frontière. Les clandestins, les sans-papiers, les irréguliers. Alors c'est un problème qui se pose dans tous les confettis de l'Empire, dans les DOM et dans les TOM. Les confettis de l'Empire, c'est une expression qui avait été inventée dans les années 70, je crois que par Jean-Claude Guibaud, pour décrire ces bouts de France qui restent encore un peu partout, les DOM, les TOM, et là, eh bien, c'est Mayotte. Et les problèmes sont communs avec la Guyane, avec les Antilles, avec tous ces confettis qui connaissent une certaine prospérité, mais qui est en contraste extrêmement violent avec les pays alentours. Souvenez-vous de la Guyane, du sud de la Guyane, de Maripasoula, par exemple, par rapport au Brésil voisin, le différentiel social, comme on dit. Aujourd'hui, dans les Antilles françaises, même problème avec les Haïtiens, très pauvres à côté, francophones eux aussi. Et puis nous voilà à Mayotte. Sauf que Mayotte, on connaît moins, on connaît même pas du tout. Alors où c'est d'abord Mayotte? Commençons par le commencement. Où c'est? On confond souvent Mayotte et les Comores avec les Açores, par exemple. Non, Mayotte et les Comores se trouvent à l'entrée nord du canal du Mozambique, entre Madagascar et le Mozambique, c'est-à-dire au sud-est de la côte africaine, entre cette côte sud-est et l'immense île de Madagascar. C'est quatre îles, en fait, ces Comores. C'est quatre îles, et en disant quatre îles, je dis déjà quelque chose, je prends parti. Oui, vous allez voir. Quatre îles qui sont l'archipel des Comores. Comores, ça vient d'un mot arabe qui veut dire la lune, Comores. Les îles, l'archipel de la Lune. C'est très beau, ça fait rêver. Et donc, ces quatre îles ont une histoire. Elles ont une histoire très ancienne, peuplée par des gens venus d'Afrique, les Bantous, peuplée par des gens venus de la Perse, peuplée par des gens venus de la péninsule arabique, peuplée par des Indo-Pakistanais, peuplée par des Indonésiens lointainement venus à Madagascar, peuplé par des Malgaches d'autres origines, peuplé par, et aussi bien sûr par des Occidentaux, depuis que les Portugais naviguant autour de l'Afrique, eh bien s'arrêtaient dans ces îles des Comores. C'est dire le mélange, c'est dire la mosaïque, c'est dire les influences. Une influence importante a été l'islam. Les îles des Comores ont été assez tôt islamisées. Et puis l'histoire, une histoire de territoire, de sultanat de sultans qui règnent soit sur les îles entièrement, soit sur des parties de ces îles, jusque on va faire de grandes enjambées pour raccourcir un peu l'histoire, jusqu'à la moitié du 19e siècle où la
les Comores, ces quatre îles, passent sous souveraineté française, 1840 ou 41, je crois. Bien, et on ne s'occupe pas beaucoup de ces îles qui se présentent pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas grand-chose à en faire. Ça sert comme réserve pour le commerce des esclaves. Des razzias depuis Madagascar sont organisées pour venir prélever des populations qui sont vendues pour différents types de traite. Quand la France prend le contrôle de ces îles, il faut dire que cette traite existe encore. Et puis, il y a l'abolition de l'esclavage en 1848 dans cette région. Par la suite, lorsque la France prend le contrôle de Madagascar, colonie de Madagascar, eh bien, les îles des Comores sont rattachées à Madagascar. Lors du vent qui souffle vers les indépendances, on n'entend pas beaucoup parler des îles Comores. Il faudra attendre 1974-1975 pour qu'un référendum soit organisé, pour savoir ce que veulent les Comoriens. Que voulez-vous, Comoriens? Alors là, il se passe une chose étonnante, c'est que dans leur majorité, les habitants des quatre îles, dans leur majorité, disent « nous voulons l'indépendance ». Mais il y a l'une des îles, l'île de Mayotte, qui dit « nous voulons rester français ». C'est-à-dire qu'il y a trois îles qui majoritairement veulent l'indépendance et une qui veut rester dans le giron français. Et à partir de là, la France considérera que cette île fait partie du giron français. Mais du point de vue du droit international, du point de vue des Nations Unies, il y a là une délinquance française. Il y a la France n'est pas est en contradiction avec le droit international, et depuis 1975 régulièrement il y a des résolutions des Nations Unies qui condamnent la France pour sa présence à Mayotte. On le sait peu, on le sait pas. Mais c'est une situation et c'est quelque chose qui est très très présent. Donc aujourd'hui, on a une de ces îles qui est sous contrôle français, qui est française, qui est tout à fait française, qui est un statut particulier. C'est une collectivité départementale depuis 2001, après avoir été une collectivité territoriale, une collectivité départementale, alors que les trois îles des Comores constituent un État. Il y a l'union de ces trois îles. Pourquoi nous sommes là? Parce que ce qui se passe dans cette île, c'est que un habitant sur trois est un clandestin, est un irrégulier, est un sans-papiers. Ça pose évidemment un certain nombre de problèmes, des problèmes qui deviennent de plus en plus préoccupant, de plus en plus violent et qui pourrait devenir tout à fait explosif. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce qu'on va essayer de vous raconter à partir d'aujourd'hui dans La Basse Suffisance.
Asubutu rongo wawe fanye Et voilà, on est à l'abri dans une maison en construction. Tout le monde nous a suivis. On s'est mis à l'abri ici, dans cette maison. Et qui, par exemple, cette maison-là, qui est-ce qui l'a construit?
Cette maison appartient à un Maoré, mais ce sont les Anjouanais qui sont les...
C'est ça, les Anjouanais, c'est les clandestins qui font le travail.
Oui, oui.
Alors là, toute la journée, vous venez en attendant du boulot.
Ma vie en fait se résume à ça, me réveiller, aller m'asseoir sous le manguier, attendre qu'un travail se présente à moi en fait.
Alors qu'est-ce que tu trouves comme travail ici?
Je suis soudeur et je suis chauffeur aussi à la fois, donc je peux faire les deux.
Combien de temps tu as travaillé ce mois-ci depuis le début du mois là par exemple?
Ça pour fin d'état. Ça pour fin.
Depuis le début du mois, j'ai pas du tout travaillé. Parce que j'ai la peur au ventre quand je sors dehors, la peur d'une rafle imminente.
Quand est-ce que tu as été raflé pour la dernière fois?
Quand c'est quoi l'an 2000? Après l'an 2001, deux.
J'ai été raflé en 2001 deux fois et puis en 2000 une fois. J'ai été renvoyé.
C'est pas cher quoi ça.
J'ai pris le Kwassa malgré tous les dangers pour venir à Mayotte.
Oui, parce que là on sourit autour, mais il y a des morts, hein, il y a beaucoup d'accidents de traversée.
Cette image de acheter la mort, il dit en payant le retour en Kwassa, avec mon argent, j'ai acheté la mort.
Pourquoi tu as acheté la mort?
Parce que c'est risqué.
On prend des risques pour braver la mer, les dangers de la mer, pour arriver ici. Et arriver ici, on se confronte aux forces de l'ordre.
C'est les gosses qui tombent de la brouette.
Voilà, acheter la mort, on est loin des images, hélas, de beaux bleus lagons et de paradis, et pourtant il y a tout pour ça. Et il y a tout pour ça, sauf cette histoire. Voilà, ces hommes qui achètent la mort en faisant cette traversée. Bienvenue à Kaweni, qui est le plus grand bidonville français. Eh oui. C'est ici, c'est à Mayotte, c'est à Mamoudzou, sur les hauteurs de Mamoudzou, où dans cette immense bidonville de Kaweni se sert, eh bien, ces irréguliers. Parce que quand on dit sans papier, quand on dit clandestin, c'est une prise de position, je le disais tout à l'heure, puisque c'est les gens qui viennent de là, viennent généralement d'Anjouan, c'est-à-dire l'une des îles des Comores, une île sœur, et ils viennent ici, vous avez compris, évidemment, parce que, pour vivre, pour faire la vie, comme on dit, pour des raisons de santé, pour des raisons de boulot, pour des raisons de manger, tout simplement. Et ils viennent, ils prennent beaucoup de risques pour ça, ils achètent la mort, et ils viennent sur ces embarcations qu'on appelle des Kwasa-Kwasa, des barques dans lesquelles on pourrait mettre 10 ou 15 personnes tout au plus, et 15, c'est déjà prendre des risques, mais où ils montent à 30, parfois jusqu'à 40, et ils font cette traversée pendant des heures au péril de leur vie. Ils sont pourchassés, évidemment. Il y a la police de l'air et des frontières. Il y a un certain nombre de dispositifs dissuasifs. Et puis, ils finissent par aboutir sur des plages de Mayotte. Et là, ils essayent de se faire oublier. Oublier, pas tellement, puisque, en fait, depuis des années, ce sont ces sans-papiers qui font tout le travail sur l'île de Mayotte. On va nous le dire, on va nous le redire, c'est eux qui font tout le boulot. On les rencontre partout, ils servent au restaurant, ils sont maçons, ils sont taxis, ils font absolument tout le boulot. Et là, depuis quelques mois, on a décidé de les renvoyer, et on n'en veut plus. On n'en veut plus, sauf que il y a présente quand même plus d'un tiers de la population. Alors c'est un sacré boulot que de les renvoyer. On plaisante, mais acheter la mort, c'est une. Il faut prendre ça au pied de la lettre. Parce que si on est dans le plus grand bidonville de France, à Kaweni, devant nous, on peut voir le plus grand cimetière marin de France. Parce que d'ici des côtes de Mayotte aux côtes d'Anjouan, à 70-80 kilomètres de là, eh bien, depuis 1995, on avance des chiffres de personnes qui se sont noyées dans ces traversées périlleuses. On avance un chiffre de 3000, 4000, 5000 personnes qui ont péri dans ces traversées. Donc c'est quand même une situation assez terrifiante. Alors on avance dans ce bidonville de Kaweni à la rencontre de ceux qui essayent là de survivre en attendant ou en essayant d'échapper aux fameuses rafles qui se multiplient. Alors en face, il y a le magasin qui s'appelle Dollar. Voilà la petite épicerie de la rue avec des bananes vertes sur le seuil, et puis tout le petit monde de la rue qui nous regarde, parce qu'évidemment, les Muzungu, les Blancs avec les micros, c'est pas si souvent. Bonjour, comment vous appelez ?
C'est Dollar.
Dollar ?
Ouais.
Dollar, c'est le nom de votre boutique, c'est votre nom à vous ?
Oui. Hein ? Ouais, Dollar.
C'est Monsieur Dollar. Ouais. Qu'est-ce que vous vendez, Monsieur Dollar ?
Comme une alimentation.
Ma boutique, c'est une alimentation générale.
Ça marche ?
Non.
Non, ça marche pas.
Ça marche pas, parce que... Il y a quoi qui
Ah, je n'arrive pas à vendre parce que en ce moment les autorités sont en train de chasser les sans-papiers et j'ai plus de clients. Mes clients sont principalement des sans-papiers.
Ah là là, pourtant ça a marché depuis quand vous êtes là ?
Depuis 88.
Et vous venez d'où ? Alors vous, en 88, vous êtes venu d'où ?
Comment ?
Et pourquoi vous êtes venu ici ?
Business.
Pour le business.
Pour le business.
Alors ici, vous dites que les sans-papiers, il y en a de moins en moins dans le quartier ?
Depuis les manifs de la dernière fois, de septembre et d'octobre, les sans-papiers sont, il y en a de moins en moins.
Ils sont chassés.
Oui, il y a une forte pression de la police, en fait. Donc, les gens.
Tous les jours.
Tous les jours. Ils rentrent dans le quartier, tout ça. Ils ramassent tous les jours.
Et ils renvoient.
Ils renvoient.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Abdallah Suleiman.
Vous faites quoi, vous, ici ?
J'ai retraité. J'étais travaillé à la mairie, gardien de l'école.
Gardien de l'école ?
Oui.
Et la vie a changé beaucoup ?
La vie a changé un peu, mais ce n'est pas tellement, parce que j'ai année ici à Mayotte.
Vous êtes né à Mayotte?
Oui, parce que mon grand-père, il a quitté un joie pour venir ici.
Ah, vous définissez comment? Dans votre esprit, vous êtes quoi? Vous êtes français, vous êtes quoi?
Oui, vous êtes français, mais les autres, les grands, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas mieux. Parce qu'ils
ne vous comprennent pas.
Oui. Oui, ils font comme les poissons. Les poissons, les grands, ils mangent les petits.
Les grands mangent les petits?
Oui.
Les grands quoi? Les grands blancs ou les grands maorais?
Non, les grands maorais, là.
Les grands maorais mangent les petits comme vous?
Oui. Les grands maorais, ils font comme les poissons. Ils voulaient manger les petits.
C'est ça.
Quand même, il connaît, toi, tu es maoré, mais quand il trouve sur la route, ah, moi, je connais pas toi. Quand tu es allé au bureau, ah, c'est qui ça? Après, quand il voulait, à demi, il voulait faire la campagne, il te connaît. Après, quand il trouve le bureau, il rentre au bureau, il connaît pas toi. C'est ça le problème ici à Mayotte.
C'est comme ça que ça se passe à Mayotte. Alors voilà, on est à Kawesi, je le rappelle, dans ce Kawéni, pardon, dans ce bidonville. Et ce que disent déjà nos interlocuteurs, c'est que il y a un lien évidemment entre le reste des Comores, Anjouan, l'île d'Anjouan, et Mayotte, des liens très anciens. J'essayais de retracer un peu l'histoire de ces quatre îles, et c'est des langues communes, religion la même, et puis de longues traditions, mœurs communes, et puis des liens de famille, tout simplement. Donc, quand on a essayé de couper, d'isoler cette île, et quelque chose c'est vécu comme une fracture, comme une coupure. Donc, il a fallu, ça a entraîné des rivalités, et aujourd'hui, ces rivalités sont exacerbées, c'est en train de pourrir, les relations sont en train de pourrir, surtout qu'un certain nombre d'élus tout à fait démagogues exacerbent un certain climat de xénophobie qui tourne au racisme, un racisme anti-pauvre. On est en train, à Mayotte, de criminaliser la misère, de punir les pauvres comme on le fait ailleurs, à ceci près qu'en plus, là, il y a un lien ancien, familial entre les uns et les autres. Et c'est d'autant plus terrible et d'autant plus explosif. Bonjour, vous appelez comment?
Youssouf Ali.
Youssouf Ali. Là, on est en train de voir un peu comment les gens vivent ici dans le quartier. C'est quoi? Vous travaillez pour la ville?
Ah non, oui, mais c'est pour protéger la police, mais parce que nous sommes des clandestins, on n'a pas les solutions pour vivre. On protège comme ça, parce que les gens...
Vous protégez, avec des vêtements, comme si vous étiez des employés municipaux.
Oui, exactement.
Donc, c'est des machins, des espèces de vestes fluo.
Oui.
Comment portent les employés municipaux, les gens qui font le nettoyage urbain? Si bien qu'avec ça, les flics t'emmerdent pas, quoi. Ils pensent que tu es un employé municipal. Mais vous venez d'où?
D'un Grand Comore.
Vous venez des Grandes Comores. Et vous êtes sans papier?
Mais mon fils est né ici à Mayotte. Ouais. Mais il n'a pas de papier. Française.
Ah d'accord. Il a quoi comme papier?
Une lettre de naissance seulement.
Et depuis quand vous êtes là?
2002.
Donc ça fait 3 ans que vous êtes là sans papier?
Exactement. Bon, on travaille un petit bricole comme ça, mais pas de travaux qui continuent.
Ouais.
Maçonnerie comme ça. Chaque fois on trouve quelques bricoles dans les quartiers comme ça, on cache en évitant la police comme ça, mais...
Pour des entreprises?
Exactement.
Ah. Alors donc, il y a des entreprises qui vous font travailler.
Mm-hmm, c'est ça.
Combien ils vous donnent?
Par heure. 3,20 €.
3,20 € par heure. Et on vous paye toujours ou des fois le patron oublie de vous payer?
Ah non, il y a des patrons qui...
Qui oublient.
Oui, chaque fois.
Ils oublient.
À la fin. Quand le travail est fini, on dit, ça c'est pour moi l'argent, c'est pas pour vous. Allez, si vous voulez, vous allez faire ce que vous voulez. Pas d'autre choix, parce que chaque fois que le clandestin va faire une plainte là-bas, la police l'a refusé. Chaque fois, on nous dit, vous êtes les clandestins, pas des papiers, c'est pas la peine de venir ici, vous allez discuter avec vos patrons, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça y est.
D'accord. Ça t'arrive de travailler pour des Bouzungu, pour des Blancs?
On préfère de travailler avec les Bouzungu comme ça, mais les Noirs comme nous, c'est presque celui qui nous fait le mal.
Ah bon, les Bouzungu sont plus gentils, sont moins méchants?
Ah oui, exactement.
C'est vrai?
C'est vrai, je te dis la vérité.
T'as déjà été expulsé?
Ah bien sûr.
T'as déjà été ramassé?
Ah oui.
Souvent?
Ah oui.
Et renvoyé là-bas?
Ah oui.
Et à chaque fois, t'es revenu?
Avec ça.
Oui. Combien de fois?
pour moi, je fais deux fois.
Deux fois. Combien tu payes de passage?
Chaque voyage, on payait 200 euros.
200 euros le passage. Mmh. Quelle vie, hein?
Ah, c'est plus difficile.
T'as
vous savez que chez nous, il y a beaucoup de choses à faire. Chaque fois, il faut cotiser. Les gens de la Grande Combe qui sont ici, chaque fois, on cotise de l'argent.
Alors, une partie de l'argent, tu le donnes ici à une association?
C'est pour développer notre pays. Parce que vous savez que là-bas, les gouvernements comoriens se refusent de faire ce que nous voulons. Il faut qu'on fasse les foyers de jeunes, il faut qu'on fasse les terrains de foot, etc. etc. C'est nous
c'est vous qui le faites. Vous êtes organisé, c'est une association de grands Comoréens d'ici, et vous réunissez des fonds sur tes salaires. Quand tu gagnes quelque chose, tu donnes une partie. Et ça, c'est une association qui, là-bas, fait du développement. Et puis, le reste.
Et le reste, on va faire quelque chose chez nous. Parce que nous avons des familles là-bas qui nous entendent. Quand on trouve de l'argent, il faut que les envoyer là-bas.
Tu as combien de personnes là-bas que tu fais vivre?
Ah, c'est beaucoup, parce que à peu près sept enfants comme ça, c'est mes petits frères et mes parents, etc., etc., comme 11 personnes.
Tu fais vivre 11 personnes?
Ah oui.
Mais il y a beaucoup de rafles ici dans le quartier?
Bien sûr, il y en a. Ah, c'est plus.
C'est plus dur maintenant?
Ah oui. Il faut qu'elle nous donne la liberté totale de vivre ici, pour travailler comme ça sans problème.
Tu vois, si tous les clandestins partaient d'ici, si tous les sans-papiers partaient, est-ce que le pays ici continuerait de fonctionner?
Moi, j'espère que quand les clandestins sont partis chez nous, j'espère que toutes les choses, tous les travaux qui sont là, ça va bloquer.
C'est ça.
Oui. Pour moi...
C'est vous qui faites fonctionner l'île ici?
Oui.
Enfin, en grande partie?
Oui, c'est nous.
Bonne chance à toi.
Merci.
Voilà, rapidement évoqué la vie dans ce bidonville de Mayotte. Le problème de ces sans-papiers, de ces irréguliers, qui, je le rappelle, sont là depuis longtemps, qui font tout le boulot et surtout qui viennent des trois autres îles où la pauvreté est très très grande, les niveaux de vie sont très différents. Il est tout à fait naturel, c'est la chose la plus naturelle du monde, que d'essayer de vivre le moins mal possible. Et donc, voilà, face à cette présence alors étrangère, puisque du point de vue du droit français, enfin du point de vue de la France, il y a deux pays différents, mais je le rappelle encore une fois, du point de vue du droit international, du point de vue des Nations Unies, le litige reste entier depuis 1975. Alors, on est allé voir un élu qui s'appelle Ali Souf, qui est maire UMP, qui est président de l'association des maires de Mayotte, qui est maire de Tsingoni, qui est une des communes de Mayotte, et qui lui est la voix de la fermeté, puisque selon lui, il y a dans cette île 70 000 sans-papiers, et bien il faut les renvoyer. Ali Souf.
Moi je pense que bon, sur 160 000 habitants, il faut compter à peu près entre 60 et 70 000 personnes en situation irrégulière qui vivent ici aujourd'hui.
Et alors, qui font quoi? Ces 70 000 personnes représentent quoi économiquement?
Mais écoutez, ces personnes en situation irrégulière d'abord sont employées, une partie par les Maorais, une partie par les fonctionnaires qui travaillent à Mayotte et une partie par les entreprises. Donc, ils sont en fait employés par tout le monde ici.
vous dites bien qu'ils ont une activité économique, c'est-à-dire ils sont quoi, ils sont dans la maçonnerie, dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans tout un tas de branches, comme domestiques, comme gens de maison, comme dans des tas de boulots.
Elles font tout, tout, à tel point que le Mahorais aujourd'hui ne travaille plus. Il se croit étant le roi, il fait travailler des personnes en situation irrégulière, sachant que bon, le Mahorais lui-même n'a pas les moyens de pouvoir vivre décemment, et donc il fait travailler des personnes en situation irrégulière, je dirais même en les payant moins que ce qu'elles doivent percevoir. Par exemple, moi je sais que bon, ici, on les fait travailler, on ne compte pas les heures qu'elles font, mais elles travaillent du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour 100 euros le mois. 100 euros à Mayotte, mais il faut aussi savoir que bon, ces personnes-là ne travaillent pas seulement chez un seul patron, entre guillemets, mais chez plusieurs patrons. Ils peuvent avoir 3-4 patrons, donc ce qui leur fait à peu près 400 euros par mois. Mais en même temps, il faut savoir également que le fonctionnaire comorien qui travaille là-bas aux Comores, il gagne pas 100 euros par mois. Il gagne 80 euros. Mais 400 euros qu'il gagne à Mayotte, c'est un fortuné comorien.
C'est une fortune pour un comorien.
Tout à fait.
Oui, mais enfin, au prix de la sueur, quoi.
C'est au prix de la sueur, mais pour eux.
C'est une fortune au prix de la sueur.
S'ils étaient restés aux Comores, il faut savoir que bon, ben, ils n'auraient jamais gagné cet argent-là.
C'est ça.
Bon, c'est cela. C'est des gens qui viennent en masse. On ne sait pas, le plus souvent, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qu'ils font. Et on ne sait pas depuis quand ils sont là. Sachez qu'il y a 15, 20 ans, à Mayotte, il n'y avait pas de problème d'insécurité. Aujourd'hui, cela est préoccupant parce que vous dormez dans votre maison. Vous êtes obligé d'abord, dans un premier temps, de mettre des grilles dans toutes les fenêtres. Vous devriez avoir une porte blindée. Malgré cela, vous êtes quand même cambriolé. Donc, les sécurités règnent aujourd'hui. La délinquance juvénile réapparaît. Et qui en sont les auteurs? Ce sont, en fait, la plupart des personnes en situation irrégulière. Ils vendent de la drogue douce à des enfants. Je dirais, moi, on m'a dit que dans ma commune, il y a eu un enfant de 7 ans à qui on a fait fumer du hashish. Ah. Oui, donc ça, c'est des choses inadmissibles.
Alors évidemment, on m'a dit un enfant du hashish, ça ne peut pas constituer véritablement des informations. C'est très très flou. Vous imaginez bien que ce genre de propos, ce genre de position est contesté par une partie de l'opinion. Mais ce qui est frappant à Mayotte, c'est l'absence de débat. Pourtant, on est en France et en France, eh bien, on a un espace pour le débat public, pour échanger des idées, polémiquer, etc. Ben, il semble qu'à Mayotte, non, ce soit pas le cas. En tous les cas, c'est ce qui nous a étonné avec Guy Ventil en arrivant, c'est comment tout un tas de gens sont précipités sur nous. Ah, mais il faut que vous disiez ça absolument, c'est très important. Et puis ça, il faut le dire, il faut que vous le disiez. Mais attendez, vous avez des médias, vous avez des espaces pour vous exprimer, vous avez des télévisions, etc. Ben, pas tellement. Et y a un déficit de débat démocratique. Je dis pas de démocratie, mais au moins de débat démocratique dans cette ville, dans cette île, et aussi sans doute dans cette commune de Tsingoli. Nous sommes avec le maire UMP de cette charmante petite cité.
Il n'y a pas plus longtemps qu'hier, il y a eu une bagarre à Mamoudzou. Une dame qui s'est fait agresser par un clandestin, actuellement, elle est hospitalisée à Mamoudzou. Savez-vous que, bon, il y a eu une dame en situation irrégulière qui avait été tapée mortellement par un homme l'année dernière. Et ils sont à l'origine de tout cela. Allez voir, par exemple, la prison de Majikavo. Vous avez un peu plus de 70% des détenus sont issus des personnes en situation irrégulière. Pourquoi elles sont là-bas? Si elles étaient bonnes, on ne les aurait jamais envoyées en tôle. Mais ce n'est pas le cas. Donc, partout, on a des difficultés. Et là, ça a également un problème, hein, je dirais, par rapport justement à la santé. Vous savez qu'au niveau de l'hôpital, vous avez un peu plus de 70%. Il y en a qui ont peur des chiffres. Hein, quand vous interrogez le centre hospitalier, les responsables du centre hospitalier, vous disent « Ah non, il y a 60% des naissances sont issues des personnes étrangères. » Mais ce n'est pas vrai, ils ne veulent pas donner les vrais chiffres. C'est 80%. 80% des personnes qui accouchent dans les différentes maternités sont issues de l'immigration clandestine. Donc tout cela, si vous voulez, fait que le Mahorais lui-même se dit « Ça suffit, on ne peut plus. » Donc il faut que ça s'arrête. Nous voulons que les personnes qui viennent à Mayotte soient des personnes que nous avons nous-mêmes demandées.
Alors, il y a eu aussi des listes de Mahorais hébergeants, c'est-à-dire qui logent chez eux des sans-papiers comoriens, ou qui les emploient et qui s'exposent aux fureurs de la loi.
Tout à fait, mais vous savez que bon, le Mahorais a le sens de l'hospitalité. Mmh. Et il aime bien rendre service. Mais ce que le Mahorais ne sait pas, c'est que aucun Mahorais ne pourrait être employé à Anjouan. Et il n'y a aucun Mahorais qui a ne serait-ce qu'un Lopinter à Anjouan. C'est impossible, parce que bon, vous êtes Mahorais, vous n'êtes pas le bienvenu chez nous. Ça, c'est clair là-bas, c'est comme ça. Et ça s'est toujours passé de cette façon.
Comment vous expliquez ça?
Ah ben écoutez, c'est le fait que bon, en fait, l'Anjouanais, il est envahissant. Parce qu'on parle souvent Anjouanais. À Mayotte, il y a des grands Comoriens qui vivent ici. Il y a des Anjouanais, il y a des Moéliens. Il y a même, vous savez, bon, ben, parmi les immigrés clandestins, vous avez également des Malgaches qui passent par Anjouan pour entrer à Mayotte. Vous avez également les Africains du Grand Lac. Donc, on ne peut pas continuer, je dirais, on ne peut pas continuer à...
Donc, votre but, c'est Mayotte aux Mahorais, un point c'est tout.
Mayotte aux Mahorais et aux étrangers qui empruntent les voies régulières pour rentrer à Mayotte. La distance entre Anjouan et Mayotte, c'est vrai, elle fait 70 km, mais ces 70 km, ça devient aussi un cimetière. Hein. On dit même que c'est le plus grand cimetière de l'océan Indien. On n'arrive pas à avoir un chiffre précis du nombre de personnes qui font naufrage là et qui disparaissent, qui se noient et tout cela. Donc ça, c'est une question, c'est préoccupant comme situation.
Et vous pensez, vous, que l'État pourrait, s'il le voulait, arrêter complètement ce flux migratoire?
L'arrêter, non. Il ne peut pas. Par contre, il pourra limiter ce flux migratoire. On intercepte les Kwassa-Kwassa régulièrement. Parce que déjà là, il y a déjà un radar qui fonctionne et qui est performant parce que bon, il voit tout. Il voit même très loin. Là, déjà, les passeurs savent maintenant qu'il faut contourner le radar. Il faut passer à un peu plus de X kilomètres, je ne vais pas le dire ici, X kilomètres pour qu'on ne soit pas vu. Bon, mais il y a deux ans, le tarif pour passer d'Anjouan à Mayotte était de 600 francs français. Là, actuellement, il est à 200 euros parce qu'ils savent que le radar les voit. Donc, il y a plus de contraintes. Ils sont pas sûrs de pouvoir y arriver. Et donc, ceux qui veulent vraiment faire la traversée, ils savent qu'ils vont payer plein pot. Et c'est ce qui se passe là-bas actuellement. Donc, les interceptions plus destruction des barques, c'est un moyen de dissuasion de ces personnes-là, d'abord de ces passeurs d'une part, mais également pour ceux qui veulent venir, hein, les candidats à l'exil, quoi.
Ainsi parlait Ali Souf, le maire UMP de Tsingoni à Mayotte. Il est en parlant comme il le fait, en accord avec la plupart des maires de Mayotte, qui sont montrés effectivement très très durs avec les sans-papiers, incitant les Mahorais, les habitants, à dénoncer leur clandestin, faisant des listes, interdisant l'accès aux écoles à certains enfants, etc. On reviendra sur tout ça. On va revenir au bidonville de Kaweni, avec les clandestins eux-mêmes, ceux qui, sous ce manguier, attendent toute la journée un éventuel travail, à peine si de temps en temps ils se poussent un petit peu contre le tronc de l'arbre quand la pluie tombe, puisque c'est la saison des pluies.
Moi, je m'appelle Kamadou Saïd, en journée.
Comment tu es venu ici?
Ah,
je suis passé par les voies légales.
Fait 88. Maintenant, c'est la carte de séjour.
J'ai une carte de chez vous. Je suis pitié en fait de mes compatriotes enjoinés qui n'ont pas de papier ici et qui souffrent. Je ne peux pas les aider parce que j'ai une famille aussi à nourrir, mais quand je les vois se faire pourchasser dehors, ça me fait mal. Oui, les pressions s'intensifient. D'ailleurs, ces dernières semaines, il y a eu 50 personnes d'arrêtées.
Qui ont été arrêtées, qui ont été reconduites.
Hier, d'ailleurs, ils étaient ici. La police était ici.
Mais comment ça se passe alors, les rafles de la police ici dans le quartier, dans le bidonville?
Dès qu'ils arrivent, ils nous encerclent et ils demandent qui a des papiers, ceux qui n'en ont pas, ils les embarquent directement. Quoi. Des fois, on les repère, des fois non. Quand on les repère, on s'enfuit, sinon ils nous prennent de surprise.
Même femme, même enfants, la police. Comme on a l'air, on a quitté, on a pas de papier.
Absolument, ça le fait plaisir au patron parce que de toute façon, c'est eux souvent qui vont dénoncer, qui vont appeler les flics pour venir ramasser.
Un petit peu avant la paye. Qui est-ce qui fait ça? C'est des entrepreneurs? C'est des particuliers? C'est des particuliers?
Oui.
Des Muzungu? Des Blancs?
Non, mais ce n'est pas Muzungu. Maoré.
C'est des Maorés?
Oui.
Les petits patrons
Maorés. Patron Maoré, c'est qui a fait ça.
C'était un reportage de Daniel Mermet et Kivan Ktil, traduction Nassouf Djellani. À lire Comore Mayotte, une histoire néocoloniale parue aux éditions Agone. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, il y avait Yann Bouillot et Philippe Duclos, réalisation Yann Chouquet et Koyen Guyenne, assistante Charlotte Perry. Le chef du répondeur, c'est Christophe Humbert, il attend vos messages au 01 56 40 37 37.
Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Je suis comme le vent, expulsez-moi. J'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut, expulsez-moi. Je siffle faux, expulsez-moi. Il paraît que chez toi, expulsez-moi. Ouverts sont les bras, expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Je suis un oublié, expulsez-moi. Je ne fais que passer, expulsez-moi. Sur mon tapis volant, expulsez-moi. Je n'ai pas 10 ans, expulsez-moi. Quand les bouches du métro, expulsez-moi. Vomissent des troupeaux, expulsez-moi. Il était une fois, expulsez-moi. Chez toi, c'est chez moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Puisque c'est comme ça, je t'invite chez toi. Quand il n'y aura plus que moi, je m'expulserai. Expulsez-moi, expulsez-moi. expulsez-moi, expulsez-moi.